Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'atelier des médias. Au début du mois de juin, RFI a publié la deuxième saison de L'Europe et moi, un long format, un web documentaire consacré aux clichés sur l'Union européenne. Un travailleur détaché roumain, une chef d'entreprise grecque, une autrichienne musulmane et féministe, une hongroise opposée au premier ministre Viktor Orban, quatre citoyennes, citoyens racontent leur histoire et leur relation à l'Europe dans ce projet cofinancé par l'Union européenne.
Comme des milliers d'Autrichiens, Gözde est descendu dans les rues de Vienne en scandant « Nazi dehors » lorsque le parti d'extrême droite a opéré son retour au pouvoir en décembre dernier. Le FPE ne cache pas ses priorités. La lutte contre l'immigration et l'islam qui pourrait conduire à une islamisation de la très catholique Autriche. Une amie de Gözde, Oumera, participait aussi aux manifestations. Elle porte le voile et elle avoue craindre pour sa sécurité.
Quand j'ai appris que l'extrême droite était au pouvoir, je me suis sentie mal. Désespérée, impuissante, mais c'était attendu. Ce qui me fait peur, c'est que les médias et les politiques ne parlent pas de l'extrême droite comme d'un danger. Si le danger augmente encore, je me poserai la question de partir. Les lois sont de pire en pire pour nous.
C'est l'équipe de l'émission Accent d'Europe sur RFI qui a réalisé ce web documentaire que nous vous invitons à découvrir sur le site de RFI. Il y est question de clichés et de lutte contre les idées préconçues. Dans l'atelier, aujourd'hui, nous donnons justement la parole à des médias francophones qui combattent les préjugés en permettant à leurs lectrices, leurs lecteurs de mieux connaître une région ou un pays du monde. C'est une émission signée Léo Caravagna.
Ces sites d'information s'intéressent à l'Europe centrale, l'Iran ou encore l'Afrique francophone. Leurs lignes éditoriales dépassent la couverture des événements traditionnels, élections, manifestations, pour faire connaître la culture, la politique, la jeunesse. Leurs armes sont le reportage, l'analyse, l'humour et la langue française.
Dans une demi-heure, nous serons avec Abby Niakate, cofondatrice du tout jeune média ivoirien Oji, un projet articulé autour de trois paris, parler uniquement de l'Afrique francophone, sur les réseaux sociaux et en vidéo. Tout de suite, rencontre avec les cinq représentants de cinq sites d'information signataires d'un manifeste pour un modèle nouveau de journalisme international. Média francophone, fenêtre sur le monde, c'est un atelier des médias signé Léo Caravagna.
Rejoignez la communauté de l'atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr All these pussy niggas so by mine. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so by mine. Spotlight, moonlight. Nigga, why you tripping? Get your Mariah. Should look good in the moonlight. All these pussy niggas so by mine. Feel like I'm destined. I don't need no Smith and Wesson. No, who are you testing? Fuck a scoundrel, here's your lesson. No, knife and testing. Taking shots at all your brethren. No, feel like I'm damn.
RFI. Le 3 mai dernier, c'était comme tous les ans la journée mondiale de la liberté de la presse. À cette occasion, 8 médias francophones ont publié un manifeste pour un nouveau journalisme international. Il s'agit de Roj Info, Novastan, Gare de l'Est, Le Courrier des Balkans, Lettres Persanes, Le Courrier d'Europe Centrale, La Dame de Pique et Orient 21. Et aujourd'hui, nous recevons à l'atelier 5 journalistes qui travaillent pour des médias signataires de ce texte. Bonjour Roala Savar.
Bonjour.
Tu es journaliste pour Lettres Persanes. Est-ce que tu peux nous présenter ce média ?
Quand je suis arrivé en France il y a presque 9 ans, et j'ai vu qu'on commence de parler de plus en plus de l'Iran, surtout après 2015, la signature de l'accord nucléaire. Mais je me suis rendu compte qu'on ne parle pas sur le sujet de fond. C'était à ce moment-là que j'ai décidé de lancer avec ma cofondatrice Delphine O, Lettres Persanes, qui donne une information un peu plus approfondir sur l'Iran, pas rester sur la façade de l'information, de traiter la complexité de réalité de ce pays. Et depuis, on travaille sur l'actualité, des actualités en Iran, que ce soit politique, culturelle, économique, mais en profitant des informations provenant de la presse, de blogosphère, des agences de presse sur place en Iran, qui font une production assez intéressante, variée et diverse, et parfois contradictoire.
Si je vais sur le site de Lettres Persanes aujourd'hui, qu'est-ce que je vais voir comme sujet? Qu'est-ce que je peux lire?
Par exemple, sur les évolutions récentes sur l'accord nucléaire, on peut voir la réaction des différentes courants de presse, des réformistes, des conservateurs, et puis la réaction sur les blogosphères, les analyses des analystes en Iran, des politiques, des points de vue différents. Mais l'idée, c'est ça, c'est de donner un accès à ce qui se dit en Iran, de ne pas tomber dans la sensationnelle et de valoriser et de regarder l'Iran avec une fenêtre de la société civile. Parce que entre un aspect très extrême du pouvoir politique, des répressions et tout qui existent, ou un autre extrême qui est un exotisme sur l'Iran ancien perse, la réalité de l'Iran est entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire un Iran, une société civile qui est vivante, qui change les dons.
Tu l'as dit au début, vous vous appuyez beaucoup sur la presse et la blogosphère locale. À quel point la presse est libre? Et la blogosphère est libre en Iran?
Depuis 2009 jusqu'à 2013, il y avait vraiment une fermeture de la presse iranienne. Et après l'arrivée au pouvoir de Rouhani, il y a eu une relative liberté d'expression dans la presse iranienne. Et c'est à ce moment-là qu'on a réalisé qu'il y a une diversité, une vraie diversité relative qu'on peut montrer. Par contre, le blogosphère iranien est l'un des blogosphères le plus vivant et plus actif dans le monde. La langue persane est toujours entre 12e et 3e langue sur le blogosphère. Il y a une production de blogs assez variée sur tous les sujets. Et normalement, les blogueurs sont beaucoup plus libres. Maintenant, il y a beaucoup de podcasts. Il y a un mouvement des podcasts en Iran qui font leurs recherches, leurs enquêtes sur les sujets différents. Du coup, pour terminer, les blogs sont relativement libres, ils critiquent tout. C'est en mouvement, c'est-à-dire que c'est pas un pays totalement fermé, qu'il y a personne qui parle, il y a personne qui critique, non. Et parfois, quand il y a un député qui existe là maintenant aujourd'hui, qui critique même le guide suprême, les journalistes se contentent de transmettre son parole sans commenter, mais puisque c'est un député, voilà. On a seulement transmis l'information.
Merci beaucoup, Rouhala Savar, donc fondateur de Lettres Persanes. Je me tourne vers Ludovic Lepeltier-Koutachi. Tu es directeur de la publication, c'est ça, du Courrier d'Europe Centrale. Est-ce que tu peux nous présenter ce courrier?
Alors, le Courrier d'Europe Centrale, c'est donc un site d'information qui existe depuis 2009, qui existait sous une autre forme, sous la forme d'un blog. Ça s'appelait Oulala, avec le HU qui fait référence à la Hongrie. Et puis, il y a 2 ans, on a décidé, avec Corentin Léotard, qui fait partie de l'équipe des fondateurs et qui est rédacteur en chef du média, d'élargir la zone de couverture de la Hongrie vers les autres pays d'Europe centrale, pensant qu'il existe un fait centro-européen, que ce soit politique, culturel et social, un petit peu sur le modèle du Courrier des Balkans. Et puis là, depuis janvier, on a décidé d'acter cette transformation en nous renommant au Courrier d'Europe Centrale.
Alors moi, ce qui m'a frappé sur le site du Courrier d'Europe Centrale, c'est à quel point c'est justement orienté politique. C'est la première rubrique qu'on voit sur le site, et là, les articles à la une en ce moment, c'est élections en Hongrie, élections en Slovénie, difficultés de l'opposition en Pologne.
Oui, c'est vrai. En fait, c'est presque l'inverse que l'être personne de ce point de vue-là. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il y avait traditionnellement les médias qui couvraient, on va dire de manière longitudinale, les pays d'Europe centrale, avaient justement une focale très forte sur les questions culturelles, avec parfois même une vision un peu exotisante de ces pays-là. Et nous, on a pensée important de parler politique, d'autant plus que la manière dont on parle de la politique de ces pays-là, c'est toujours à travers le prisme des gouvernements, à travers le prisme de ce qu'on reçoit en France ou dans les pays francophones en général, donc ce qui peut heurter ou en tout cas des choses qui sont évocatrices par rapport à la situation politique de nos pays, typiquement la montée de l'extrême droite en Europe, la montée des populismes en Europe, ce genre de choses. Et du coup, c'est vrai qu'on met l'accent sur la politique pour aussi et là c'est le point commun avec l'autre personne, pour montrer la diversité et la complexité de la situation, montrer que justement il y a une thématisation sur l'Europe centrale qui est un petit peu réductrice, c'est-à-dire toujours parler de la garde hongroise, les milices d'extrême droite, etc. Alors que bon, quand on va à Budapest, Cracovie, Varsovie, on se rend compte que la situation n'est pas aussi catastrophique, mais qu'en même temps il y a des sujets qui concerne également les citoyens européens en tant que membres d'un même espace politique, notamment les thématiques sociales, les questions des inégalités, ce genre de choses, qui sont complètement absentes du report qu'on fait de l'actualité de ces pays-là. Et du coup, on essaye de valoriser, de montrer que le débat public, il se porte aussi sur ces sujets-là.
Merci Ludovic Lepeltier-Koutachi. On va parler maintenant de la Dame de Pique. Bonjour Lucas Aubin, tu es journaliste donc pour ce média. Est-ce que tu peux nous présenter la Dame de Pique ?
Alors, la Dame de Pique, c'est un média qui a décidé de prendre le contre-pied de ce qu'on dit généralement sur la Russie. C'est-à-dire que les sujets cristallisés autour de la Russie en France, souvent quand ils sont traités, traitent de la politique de Vladimir Poutine. Et sous un angle assez parfois caricatural en tout cas. Nous, on a décidé avec Caroline Gojard-Larsson de traiter davantage de l'actualité culturelle et de parler de l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que par exemple, moi je vis 6 mois de l'année en Russie et 6 mois de l'année en France. Quand je suis en Russie, je voyage de ville en ville de manière à pouvoir discuter avec les gens, rencontrer les gens, parler russe avec eux évidemment, et pouvoir avoir un point de vue qui sort un peu des sentiers classiques en fait abordés en Russie. C'est-à-dire Vladimir Poutine, est-ce que le pays est un état totalitaire, est-ce que, etc. La vodka, les ours, on sort de tout ça. J'ai commencé une série par exemple de 11 articles traitant des 11 villes qui vont accueillir la Coupe du Monde de football. Et l'idée n'est pas de pointer du doigt par exemple les problèmes liés à la construction des stades, etc. Mais l'idée est plutôt de montrer comment la population elle ressent l'événement, comment elle se positionne par rapport à ça, comment elle vit en général, quelle est l'histoire de ces villes aussi. On connaît moins bien souvent que par exemple Moscou et Saint-Pétersbourg évidemment, mais là on parle de Rostov-sur-le-Don, de Volgograd, de Samara, Saransk, qui sont des villes méconnues, qui montrent finalement une Russie qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple pour Kazan, qui est une ville hôtesse de la Coupe du Monde aussi, on parle d'une ville à moitié musulmane, à moitié orthodoxe, à moitié tatar, à moitié russe. Ça offre donc en fait un espèce de multiculturalisme qu'on aborde peu, quand on parle dans les médias en général de la Russie.
Ce qui m'a frappé aussi, moi, sur la Dame de Pique, c'est que, hormis justement cette série d'articles qui utilisent la Coupe du Monde de football comme prétexte pour parler de ces villes, les contenus n'ont pas de rapport avec l'actualité.
Pas du tout, effectivement. L'idée, c'est vraiment de sortir de cette idée de rush permanent et de caricature, du coup. Donc, nous, on a pris le parti, effectivement, de sortir complètement de ça. Les mots Poutine, par exemple, apparaissent très très peu, en fait. Non, l'idée, c'est vraiment de regarder la Russie sous un angle différent de celui qu'on peut avoir d'habitude.
Merci, Lucas Aubin. Autre média qu'on découvre aujourd'hui, le Courrier des Balkans. Bonjour, Laurent Gélin.
Bonjour.
Présente-nous, s'il te plaît, le Courrier des Balkans.
Alors, le Courrier des Balkans, c'est un média francophone d'information sur l'Europe du Sud-Est qui existe depuis 98, donc qui commence déjà à avoir une longue histoire. C'était à l'origine un média de solidarité avec les médias indépendants des régions. En 98, il faut se replacer à une époque où la région, les Balkans, étaient frappés par des conflits en Bosnie-Herzégovine entre 92 et 95, ensuite en 99 au Kosovo, avec des régimes autoritaires en place en Croatie, en Serbie notamment, et le média avait pour but de créer des solidarités, de donner la voix aux médias indépendants qui se battaient sur place pour la démocratie, pour la liberté d'expression, etc. Et puis au fil du temps, le courrier a pris une autre mission, celle de porter un regard peut-être plus extérieur que les médias sur place, c'est-à-dire faire des reportages. Aujourd'hui, on a une trentaine de correspondants dans la région. Et en fait, on s'est aperçu qu'on était obligé aujourd'hui de moins s'appuyer sur la presse locale et de beaucoup plus faire de reportages, car l'état de la presse dans ces pays est encore plus déplorable que dans les années 90. Aujourd'hui, on a des démocraties autoritaires, on va dire, dans tous les états de la région, qui sont toutes candidates à l'Union européenne. Mais on a les principaux médias de ces pays qui sont sous contrôle de grands groupes de presse, de grands oligarques connectés avec le pouvoir. Donc pour les journalistes sur place, il est parfois encore plus difficile de faire leur travail aujourd'hui que dans les années 90, ce qui nous a forcés, obligés et poussés à produire plus de reportages. Et puis évidemment, on a des liens avec les derniers journaux et les dernières plateformes qui résistent dans les Balkans, et on essaie de faire remonter une information aussi, alors je ne vais pas dire objective parce que l'objectivité ça n'existe pas, mais aussi complète que possible sur tous les sujets, sachant que bien sûr le Courrier des Balkans a un angle idéologique bien marqué, à savoir contre le nationalisme, contre tous les types d'exclusion qui peuvent encore toucher la région.
Comment on fait concrètement pour couvrir un territoire qui fait 13 pays, où il y a des pays aussi différents que la Grèce qui est dans l'Union européenne? Il y a une partie de la Turquie, on l'oublie, mais il y a aussi la Turquie, et puis ça va jusqu'à l'Albanie.
Évidemment, il y a des problématiques très différentes. Si on parle d'Istanbul ou de la Slovénie, on va arriver sur des problématiques complètement différentes, qu'on essaye de traiter toutes les unes après les autres en essayant d'avoir des arbitrages. Quand on a un article sur la Serbie, le lendemain on va publier un article sur la Croatie, on essaie d'avoir des arbitrages en sachant évidemment qu'on est aussi des dépositaires de l'actualité et qu'on prend des gros focus sur des actualités chaudes quand elles arrivent.
Je me tourne maintenant vers notre dernier invité, Jean-Michel Morel, bonjour.
Bonjour.
Tu travailles à Orient 21. Les auditeurs de l'atelier qui étaient avec nous le 2 décembre dernier ont déjà pu entendre Alain Grech, cofondateur de ce média. Cette émission, vous pouvez l'écouter en podcast. On va mettre le lien sur Twitter. Jean-Michel, est-ce que tu peux quand même nous présenter Orient 21, s'il te plaît?
Donc, Orient 21, c'est une web revue qui a comme ambition de brasser les problèmes géopolitiques, sociologiques, culturels, historiques d'une région qui s'étend du Maroc à l'Afghanistan. Nous essayons évidemment de ne rien manquer de l'actualité de ces pays, mais nous cherchons aussi à éclairer le mieux possible notre lectorat en allant voir dans l'histoire. En essayant, fait l'être persane aussi, d'avoir des témoignages de gens qui vivent dans les pays concernés ou qui nous concernent, comme on voudra. Et on a à cœur de rendre compte de leur vie culturelle le mieux possible.
On va enfin en venir à la raison qui vous rassemble ici aujourd'hui, et c'est ce manifeste que tous les cinq vous avez signé, avec aussi trois autres médias que sont Roj Info, Novastan et Gare de l'Est. Ludovic Lepeltier-Koutachi, tu es un des initiateurs de ce texte.
En fait, le Courrier d'Europe centrale, donc nous on entretient des relations depuis quand même assez longtemps avec le Courrier des Balkans et puis Novastan. Et ça fait, on va dire, plus d'un an qu'avec le Courrier des Balkans, on était dans des réflexions sur des formes de synergie à trouver entre nos deux médias. Et puis donc à côté, Novastan, qui est un site d'info donc sur l'Asie centrale, animé notamment par Étienne Combier. Et à un moment donné, on s'est dit que peut-être ce qui sera intéressant, c'est pas tant la question de la contiguïté de nos aires respectives, c'est pas tant nos lignes éditoriales qui serait intéressant de mettre en avant, mais c'est plutôt le modèle de presse qu'on défend, c'est-à-dire effectivement un journalisme international ancré dans les sociétés, ancré dans les cultures, avec souvent des personnes qui parlent les langues des pays qui sont couverts, avec un suivi long, capacité de contextualisation très importante. Et du coup, avec Étienne, on s'est dit, faudrait tout simplement nommer ce qu'on est en train de faire. On se disait, bah, y a pas mal de sites qui existent, on vous avait tous repéré autour de la table, et puis à un moment on s'est dit, ouais, bah, pour nommer les choses, peut-être qu'il faudrait à la fois trouver un nom et puis trouver aussi une définition. Et qu'une définition, ça va pas tenir en quelques lignes, mais peut-être qu'un texte un peu plus long mériterait qu'on compose les choses. Courrier des Balkans nous a été tout de suite dedans aussi, donc à trois, on a commencé un petit peu à regarder s'il y avait, au-delà des sites qu'on connaissait déjà, d'autres médias qui pourraient répondre à cette initiative, et puis tout le monde a répondu très favorablement. On a rédigé le manifeste fin de l'hiver, début du printemps, on a pas mal échangé entre nous pour le compléter, et puis on a décidé de le lancer début mai à l'occasion de la Journée internationale de la presse.
Donc Ludovic, il y a trois grands principes dans ce manifeste. Le premier, tu en as déjà un petit peu parlé, c'est pour un journalisme international ancré.
Oui, c'est ça. Donc l'ancrage, ça nous semble important, c'est-à-dire qu'il y a dans la circulation de l'information, dans la manière aussi dont on sollicite les journalistes correspondants à l'étranger, un agenda médiatique très fluctuant, notamment de la part des rédactions dans les pays francophones.
Ce que tu veux dire, en fait, c'est que, par exemple, quelqu'un qui est correspondant à Prague ou à Budapest, une région que tu couvres pour un journal comme Le Monde ou Le Figaro, il va être appelé à écrire essentiellement en période d'élection.
Exactement, typiquement, ou quand Viktor Orban, Premier ministre hongrois, va faire des provocations, ce genre de choses, dans des polémiques, à ce moment-là, on va en parler. Il y a une thématisation aussi des pays qui fait qu'on va souvent parler de tel ou tel pays selon les thèmes. Souvent, l'extrême droite, c'est l'Europe centrale. Donc, voilà. Donc, on est un peu assigné à ça. Et du coup, les correspondants qui sont sur place, ils sont toujours mobilisés au même moment pour toujours redire la même chose en essayant à chaque fois de trouver des angles un peu différents. Donc là, l'idée, c'était de valoriser cet ancrage, c'est-à-dire qu'on a quand même des personnes qui sont là sur du temps long, qui suivent sur du temps long, qui, par leurs activités également, sont amenées à travailler d'autres thèmes que les thèmes sur lesquels ils sont toujours appelés à se prononcer ou à commenter. On a des personnes qui ont appris les langues, on a des personnes qui voyagent dans les pays. Donc l'idée, c'était vraiment de mettre en valeur, de mettre en avant cette dimension-là de notre travail, par l'ancrage.
J'avais l'impression de lire en filigrane dans le manifeste, en tout cas dans la partie journalisme ancré, une critique de l'envoyé spécial, qui peut être le grand reporter, qui connaît effectivement pas le pays, mais qui est parfois une plume du journal, et que donc on envoie ponctuellement dans un pays qui connaît pas forcément bien, où il prend pas forcément la langue. Est-ce que j'ai vu juste, est-ce que quelqu'un va réagir à ça, Laurent Gélin?
Oui, alors après l'envoyé spécial du journal, je pense qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Ça peut apporter, ça peut servir aussi à avoir un regard neuf. Hein. Souvent, on est aussi parfois pris dans nos marottes habituelles quand on est correspondant dans un pays étranger. Parfois, le journaliste qui vient de l'extérieur peut aussi apporter quelque chose de neuf. Moi, personnellement, j'ai pas vu ce paragraphe comme une critique de ces envoyés spéciaux qui viennent, mais plus une réaffirmation des choses positives qu'on fait. Et je pense que le modèle d'Internet qui s'est développé depuis maintenant une quinzaine d'années permet ce genre de choses qui n'étaient pas permis auparavant, à savoir d'avoir des sites de niche, des médias d'information de niche, qui permettent de nourrir tous les gens qui s'intéressent soit au Moyen-Orient, soit à l'Iran, soit aux Balkans, soit à la Russie, et d'apporter des informations intéressantes, mais qui n'intéresseraient pas forcément le grand public. Voilà, c'est un média de passionnés. Je pense que tous autour de la table ici, on est des passionnés. Pour faire ce genre de travail, en tout cas, il faut l'être. Et qui s'adresse également à des passionnés ou à des gens qui ont des liens avec ces régions. Voilà, c'est des médias qui sont possibles grâce à ces nouvelles formes sur Internet. Alors, on a beaucoup dit que Internet avait fragilisé les grands médias traditionnels, les diffusions des journaux, etc. Mais ça a aussi permis ce genre de belles expériences, alors qui sont parfois difficiles. Hein. Par exemple, au niveau financier, c'est pas évident tous les jours de monétiser cette information, de pouvoir rémunérer les correspondances, et ça implique beaucoup de difficultés, mais ça permet aussi beaucoup de liberté.
Deuxième principe de ce manifeste pour un nouveau journalisme international, qui s'intitule donc pour un journalisme international réflexif. Et là, je voudrais, Roala, que tu nous expliques ce point-là, parce que c'est vraiment quelque chose que tu fais avec l'être personne.
Je travaille avec Leila Slimani. Et elle a eu un discours récemment qui a parlé de ça, c'est-à-dire la complexité de la réalité. Et là, je vois aujourd'hui, par exemple, dans ce manifeste, c'est le point commun de notre regard sur l'actualité. C'est-à-dire que il faut mettre dans un contexte, tout s'est pas passé aujourd'hui. Il y a une histoire, il y a beaucoup de choses derrière une information. Et notre travail, c'est un peu ça, c'est-à-dire que de montrer que déjà, ça vient pas de nulle part, tous ces événements-là, tous ces mouvements-là, puis ils sont complexes, et nous ne sommes pas là pour vous raconter tout. Nous sommes là pour parler d'un aspect spécifique, d'un événement, d'un mouvement. Nous avons pris parti d'adresser les personnes, un public qui est déjà intéressé sur le sujet. Et je pense que c'est finalement, en fait, probablement c'est ça la solution pour nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler à grand public. Du coup, on a beaucoup d'espace pour expliquer des choses, pour mettre en contexte de l'information, et ça donne une autre, peut-être, vision ou une autre méthodologie de parler sur les choses qui sont un peu lointaines de nous, c'est-à-dire des choses qui se passent des milliers de kilomètres de la France.
Puisque tu parles justement de milliers de kilomètres, je vais passer au troisième et dernier principe de votre manifeste, qui s'intitule « Pour le journalisme d'un monde commun ». Alors là, j'aimerais bien que quelqu'un m'explique ce que c'est le journalisme d'un monde commun. Peut-être Laurent Gélin, je te vois hésiter.
Bah écoutez, un monde commun, c'est le monde où nous vivons tous, à l'heure de la communication multipolaire sur tous les supports, etc. L'information se diffuse très vite. Et ce monde commun, c'est le monde où nous vivons et c'est le monde où nous travaillons tous. Et encore une fois, la diversité des zones géographiques que nous rassemblons dans ce manifeste prouve que une même idée du journalisme, une même idée de l'information peut être partagée dans des espaces qui, a priori, n'ont pas grand-chose à voir. Et c'est en tout cas les ces valeurs qu'on a évoquées qui nous semblent importantes de partager avec à toutes ces régions.
Ludovic.
Oui, il y a un compagnonnage que j'aimerais rappeler, qui vaut à la fois pour la partie réflexive et puis pour le monde commun, c'est que je pense qu'on est plusieurs ici dans les villes dans lesquelles on vit, à partager un bout de route avec des chercheurs en sciences sociales, qui sont des anthropologues, des géographes, des sociologues, des politistes, etc. Bon, c'est assez large, qui font un travail de terrain qui souvent se rapproche, pas forcément dans les attendus, mais en tout cas dans le rapport aux choses, à ce que on peut tous faire les uns les autres. Et d'ailleurs, parmi nous, il y a des chercheurs en sciences sociales. Et le journalisme d'un monde commun, c'est quelque chose qui est très fort en sciences sociales. C'est ce qu'on appelle la montée en généralité. C'est-à-dire que on peut expliquer la complexité des choses, on peut essayer de rendre compte de tout un tas d'éléments de contextualisation sur le mouvement des sociétés, sur des structures socio-économiques, sur des facteurs politiques, ce genre de choses, tout en essayant de parler, de nommer les choses, de les analyser en utilisant des mots communs, en sortant des essentialisations. Ça, c'est très 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 important, c'est-à-dire parce que souvent c'est toujours tentant de vouloir expliquer les choses en disant c'est la mentalité russe, c'est la mentalité iranienne, c'est la mentalité arabe, etc. On essaye de sortir de ça et pour montrer à nos lecteurs que peut-être que les problématiques, etc., auxquelles sont confrontées les populations qui leur sont très lointaines, finalement, elles peuvent être compréhensibles elles peuvent être explicables. On peut en tout cas se le représenter de façon beaucoup plus réaliste qu'en se disant de toute façon c'est assez lointain, c'est exotique, etc. On ne peut pas comprendre. Alors que si, expliquer par exemple le vote de Trump aux États-Unis, le vote pour les conservateurs en Pologne, si on explique la situation dans les provinces polonaises, qu'il n'y a pas de transport, etc. C'est des choses qu'à un moment donné, quel que soit le pays où l'on vit, c'est des choses qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre, qu'on peut se représenter parce que ça croise nos propres préoccupations.
Jean-Michel ?
Oui, juste pour ajouter qu'on peut aussi l'aborder sur le plan philosophique, c'est-à-dire le monde commun, c'est aussi la communauté de destin de tous ceux qui aujourd'hui vivent dans les différents pays, qui ne peuvent pas être indifférents les uns aux autres à l'intérieur même de leurs frontières, mais qui même au-delà des frontières ne peuvent pas ne pas avoir de considération et ne peuvent pas se désintéresser de ce qu'il advient à leurs voisins frontaliers, voire à des milliers de kilomètres. On évoque Trump, je crois que là tout le monde pourra mesurer combien la compréhension de l'arrivée d'un personnage comme ça à la tête de ce qui reste malgré tout la première puissance mondiale a des fondements, des explications, qu'on ne peut pas s'en référer à une espèce de folie générale qui aurait gagné les Américains. Et donc nous, quel que soit le lieu où nous résidions, quelle que soit l'activité que nous avons, quel que soit, nos parcours, nos ambitions, notre philosophie, on est concerné par les décisions. Là, je reviens sur Trump, on a les exemples à l'appel, aussi bien quitter le traité sur ce qui devait nous permettre d'avoir une planète peut-être qui s'en sortirait du point de vue de l'écologie. Notre travail, c'est de montrer cette espèce d'obligation de compréhension.
Merci à tous nos invités d'être venus présenter leur manifeste pour un nouveau journalisme international. Pour lire ce texte et retrouver tous les médias qui l'ont signé, rendez-vous sur nouveau-journalisme-international.fr.
Vous écoutez l'atelier des médias sur RFI. Aujourd'hui, nous parcourons la planète grâce à des médias de langue française. Destination maintenant Côte d'Ivoire, où un jeune média vient de se lancer en vidéo et uniquement sur les réseaux sociaux.
Bonjour, je m'appelle Abigne Akaté. Je suis cofondatrice d'un nouveau média qui s'appelle OJ. C'est un peu compliqué à prononcer et à écrire. Ça s'appelle OJ3I et ça veut dire noix de cola en Igbo, qui est une langue nigériane. Voilà.
Pourquoi ce nom ?
En fait, on voulait, en lançant ce média, on s'est dit on va se lancer dans un projet. On veut absolument pas le mot Afrique dedans parce que nos aînés ont beaucoup fait ça. La plupart des médias qui existent actuellement et qui couvrent une actualité qui est africaine ont le mot Afrique, Africa, avec un C, avec un K, avec un Q, avec tout ce qu'on veut. Et donc du coup on s'est dit, on va choisir une identité qui sera complètement africaine et qui exclura le mot Afrique. Et donc OJ, donc ça vient du mot Igbo, OJ, et ça veut dire noix de cola. La noix de cola parce que c'est, en tout cas moi je suis d'origine guinéenne et malienne, donc de tout cet empire mandingue malinqué qui est sur le Mali, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Et en fait, la noix de cola, dans notre culture, c'est apporteur de bonnes nouvelles. Quand on se marie, par exemple, on envoie des noix de cola pour annoncer qu'il y a une belle nouvelle. Donc il y avait ce côté-là, mais aussi le côté... la noix de cola, c'est une graine qui est addictive. Il y a beaucoup de gens qui la prennent pour se mettre en forme, etc. Certains disent que c'est une drogue, mais ça a un côté très addictif, un peu amer comme ça. Et on s'est dit, oui, que ça allait être un média qui est à la fois apporteur de nouvelles, qui est un peu aigre dans son approche de l'actualité, et voilà, et qui peut devenir à terme addictif pour notre audience.
Est-ce que tu peux nous raconter les débuts de ce média, OJ ? Comment tu as eu l'idée ? Comment ça s'est passé ?
En fait, comment j'ai eu l'idée ? Je venais de m'installer à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, et je venais de quitter mon ancien boulot. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? J'avais fortement envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, de faire mon média. Ça, je le savais depuis 5-6 ans au moins. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Et à l'époque, bon, je dis à l'époque, mais c'était il y a simplement un an ou deux ans, quand je réfléchissais un peu au sujet, ce qui émergeait dans le milieu des médias, c'était tout ce qui était Brut, AG+, tous ces médias qui étaient 100% vidéo, 100% réseaux sociaux. On lisait les vidéos, c'est ça le nouveau format. C'est pas on regarde des vidéos, c'est on lit des vidéos maintenant. Et donc en fait, je me suis dit, ça n'existe pas du tout en Afrique.
Donc Brut, AG+, ce sont des médias, comme tu as dit, 100% réseaux sociaux, mm-hmm. où effectivement, la particularité, c'est que... En plus d'avoir de l'image, évidemment, comme dans toutes les vidéos, il y a des sous-titres, ce qui fait qu'on peut les regarder sans le son.
On peut les regarder sans le son. Alors si qu'on soit dans son taxi à Abidjan, en train d'aller au plateau ou en train d'aller à Bobo, si on a la 4G, on peut lire sa vidéo. On n'est pas obligé d'avoir le son, de déranger tous ses voisins, etc. Donc on s'est dit... C'est peut-être le format, en tout cas, qui peut marcher demain en Afrique. Et je pense qu'on a eu raison, puisque de toute façon, il y a de plus en plus de gens qui le font. L'Afrique anglophone comme dans beaucoup de domaines, on dira, mais en avance là-dessus. Il y a beaucoup d'acteurs de ce type-là au Ghana, au Kenya, en Afrique du Sud. Et en Afrique francophone, on commence petit à petit.
Concrètement, aujourd'hui, quand je vais donc sur la page Facebook d'Oji, puisque on l'a dit, Oji est 100% réseaux sociaux, qu'est-ce que je trouve ?
Alors, quand on va sur Oji, aujourd'hui, on va trouver deux types de contenus. Un contenu qui est vendu, parce qu'on a un business model qui est très, j'allais dire, assumé, c'est-à-dire qu'on a une partie de notre contenu qu'on vend à des chaînes qu'on appelle mainstream, c'est-à-dire à des chaînes qui peuvent être africaines, des chaînes nationales, comme la RTI en Côte d'Ivoire. Et c'est des contenus qu'on leur a vendus et que nous, on diffuse aussi sur notre page. Ça peut être des interviews un peu décalées, mais qui sont très courtes, encore une fois. Voilà, ça, c'est pour la partie vendue. Et un autre contenu qui, lui, absolument pas vendu, que nous, on crée et on diffuse sur notre plateforme et sur nos réseaux sociaux. Et là, ça va être des vidéos qui sont plus d'actualité, qui sont moins dans le concept, dans la blague, etc., mais qui sont plus dans la couverture d'événements, dans l'explication d'une problématique donnée, etc.
Alors justement, moi, je suis allé sur cette page Facebook et un format de vidéo que j'ai vu qui revient souvent, c'est l'interview Chap Chap. Est-ce que je prononce comme il faut ?
Chap Chap, c'est très bien prononcé.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
L'interview Chap Chap, c'est donc c'est un format qu'on a vendu à la RTI justement. C'est une petite capsule de 1 minute 30 à 2 minutes qui passe tous les lundis lors de l'émission C'est Midi, qui est un peu l'émission phare de la RTI. C'est une émission qui est très familiale, etc. Et donc c'est une interview de personnalité ivoirienne qui va être très décalée. C'est-à-dire qu'on va leur proposer deux choix de réponses. Par exemple, je sais pas moi, pour l'exemple le plus bête qui me vient à l'esprit, c'était au café. Et la personne va nous dire ce qu'elle préfère. Et nous, toutes les interviews qu'on fait sur ce mode-là, on va les personnaliser. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans la biographie de cette personnalité ce qui peut prêter à sourire ou ce qui peut la mettre un peu dans l'embarras et on va lui poser des questions. Voilà, on va pas lui demander de choisir entre son papa et sa maman, mais presque quoi.
Voilà. Alors j'ai vu aussi qu'il y avait une vidéo où vous montrez que Damien Marley, donc le chanteur, fils de Bob Marley, a samplé, donc a utilisé un extrait de chanson du duo malien Amadou et Mariam.
Ouais. En fait, sample, c'est une série de sample. Ça vient du, c'est sample, c'est-à-dire morceau d'un titre, etc., qu'on peut utiliser en boucle pour créer un autre son. Les Américains sont très forts là-dedans. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de chansons américaines, notamment, qui utilisaient des morceaux de titres africains ou caribéens, etc., et que les gens ne le savaient pas. C'est pas une idée qui on n'a pas inventé l'eau chaude avec ça. C'est juste qu'on s'est dit que les jeunes, notamment, ceux qui ont entre 15 et 25 ans, savaient peut-être pas forcément, ils n'avaient peut-être pas conscience de la richesse musicale de notre patrimoine. Et donc on s'est dit, on va démarrer une série où on va montrer comme ça des titres qui utilisent des morceaux africains ou afro-caribéens. Et donc on a une, ça c'est un de mes associés qui fait ça, parce que chacun de nous apporte un peu sa spécificité et sa passion dans le projet. Lui est très musique, moi je suis très politique, d'autres sont plutôt sport, et chacun amène un peu de sa personnalité. Lui c'est un format qu'il apprécie énormément, et on va en faire comme ça une vingtaine. Et ça rejoint un peu notre, j'allais dire, pas notre mission, mais l'image qu'on a envie de projeter, et la mission un peu qu'on se donne, qui est d'éduquer quand même un peu. On est très dans l'entertainment, c'est-à-dire on n'est pas forcément là pour donner des leçons, mais pour offrir en 1 minute 30 un moment de plaisir aux gens. On va pas être rébarbatif et chiant, mais on pense qu'on peut éduquer tout en étant drôle. Voilà, et léger, etc. Donc là, c'est dans la musique. Après, on va pouvoir le faire dans la politique, dans des sujets de société, dans de l'économie, etc.
Alors justement, sur la politique, ouais. J'ai vu une autre vidéo qui était intitulée « Les 5 choses à retenir d'une interview ». C'était le président ivoirien Alassane Ouattara qui était interviewé par un collègue de France 24.
De France 24, oui. Et ça encore, ça fait partie des tests qu'on a fait. On s'est dit « Bon, c'est quelque chose qui est très courant en France, c'est-à-dire que quand le président, par exemple, parle, on va disséquer son interview, mais pendant 5 jours après, on a encore un exemple avec sa dernière interview ici. Et en Afrique francophone, en tout cas, on le fait pas beaucoup, ça va passer de manière assez brute, j'allais dire, dans les JT, et ça va être transcrit dans la presse locale, mais on fait très peu de synthèses, très peu de critiques sur les discours, etc. Donc nous, on s'est dit, dorénavant, quand les présidents, en tout cas le président ivoirien, va comme ça prendre la parole pendant assez longtemps, on va essayer de vulgariser et de synthétiser au maximum son message pour que ça puisse créer débat. Et encore une fois, nous on est complètement apolitique, on prend pas position, mais il y a une manière de faire participer davantage les gens au débat politique dans ce pays.
Est-ce que l'idée, c'est aussi d'intéresser des gens, donc typiquement des jeunes, qui n'auraient pas eu forcément envie de regarder l'intégralité de l'interview ?
Complètement. Et la Côte d'Ivoire, c'est à l'instar de d'autres pays de la sous-région, c'est assez paradoxal, parce que les gens sont à la fois très politisés, ils ont des idées très fortes, des chapelles politiques, etc. Tout le monde appartient à un camp, la presse locale aussi. Et en même temps, la culture du débat démocratique est très faible. C'est-à-dire que participer à un débat, les idées, et concrètement se mettre autour d'une table et parler de sujets très sensibles, on le fait très peu dans le pays. Et les jeunes, j'allais dire, le savent très bien, et ils sont à la fois très politisés, mais très cyniques et très détachés par rapport à l'actualité politique. Donc du coup, c'est une manière de parler de politique avec eux de manière plus légère et de manière un peu plus originale.
J'ai aussi remarqué sur la page Facebook d'Oji plusieurs vidéos qui parlaient de femmes. Il y avait un témoignage d'une commerçante qui a perdu ses commerces après l'incendie du marché d'Abobo d'Abidjan. Donc c'est un très très gros marché Abidjan. Un sujet sur la tendance des cheveux crépus chez les Camerounaises. Est-ce que c'est une volonté de parler des femmes ?
Non, c'est pas une, il y a pas de volonté, si vous voulez, je veux pas dire on est un média féministe, etc. Je le suis personnellement, mais notre cible est à la fois féminine et masculine, elle est complètement mainstream, c'est pour ça qu'on aborde tous les sujets. La question des femmes aujourd'hui, que ce soit sur leur couleur de peau, sur la texture de leurs cheveux, sur leur maternité, mais également sur leur santé. On a actuellement en préparation une série de capsules qu'on va faire sur avec une gynécologue, par exemple. Sans être complètement féministe, je pense qu'il y a des tas de sujets qui concernent la femme qu'on n'aborde pas assez et de manière frontale, en tout cas aujourd'hui en Afrique. Et donc nous, en tout cas, on va essayer de parler de sexualité, de santé gynécologique, de grossesse, d'avortement, etc., de manière plus frontale. Quand on a fait une capsule, par exemple, sur l'avortement, qui n'a pas plu à tout le monde. Mais en tout cas, nous, notre positionnement va être de parler de manière super franche de ces sujets-là.
Qu'est-ce qu'il y avait dans cette capsule sur l'avortement ?
Ben, on se demandait si actuellement, l'approche des autorités, qui était de prôner l'abstinence à tout prix, était franchement la meilleure solution pour faire baisser le nombre d'avortements clandestins aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Parce que c'est un pays où il y a énormément de grossesses en milieu scolaire. Et la réponse, en tout cas, des autorités pour le moment, comme dans plein d'autres pays, a été de prôner l'abstinence, de dire aux gens que c'est pas bien, etc. Et donc nous, la question qu'on posait, c'est sans forcément basculer dans une occidentalisation totale de cette lutte contre les grossesses scolaires, est-ce qu'il faut pas parler de sexualité de manière un peu plus franche avec les élèves et de faire plus de, comme on en fait dans d'autres pays, d'éducation, de parler de la reproduction, de dire comment est-ce qu'on utilise un préservatif, etc. Parce qu'on peut éviter des situations dramatiques. Il y en a plein actuellement en Côte d'Ivoire, quand on a des grossesses à 13, 14 ans, les répercussions sur l'appareil féminin, sur les vies aussi, et ces répercussions sont parfois dramatiques.
Et donc cette vidéo, tu disais, vous avez lu des commentaires énervés.
Beaucoup de critiques, parce que à partir du moment où, généralement, que ce soit sur l'avortement ou sur la question de, par exemple, l'homosexualité, très rapidement, quand on veut aborder ces questions, on a des réactions qui nous font passer pour des occidentaux, on n'est pas assez africains, il faut assumer évidemment les cultures, etc. Ce que je suis complètement d'accord avec ça. Sauf qu'on ne peut pas occulter les conséquences négatives de cette sorte d'omerta ou de ces silences qu'a la société, les parents, les amis, dès lors qu'on aborde des questions de sexualité et d'homosexualité. Donc nous, en tout cas, c'est peut-être dû au fait que moi je suis de la diaspora, mais mes deux associés ne le sont pas du tout. Moi j'ai plus de facilité à aborder ces sujets-là. Eux, on a des débats en interne, ils me disent non, il faudrait plutôt parler de ça comme ça, plutôt de ça comme ça. On discute et souvent on arrive à un compromis.
Les avantages, tu en as déjà un peu parlé. Quels sont les inconvénients que tu trouves à ce format de vidéo qui se lit ?
On a démarré il y a à peu près 8-9 mois. Et en fait, on a déjà le recul sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas et les retours un peu négatifs qu'on a eus, c'est que les gens nous disent effectivement, en France, aux États-Unis, les gens sont tous lettrés. Les gens peuvent lire, etc. Vous venez dans des pays où, effectivement, la scolarisation, en tout cas en Côte d'Ivoire, est assez élevée, mais où les gens n'ont pas atteint, dans leur immense majorité en tout cas, un niveau d'éducation qui fait qu'elles sont capables de lire très vite des contenus très rapides, puisqu'on part sur des formats qui sont très courts, entre 1 minute 30 et 2 minutes, 3 minutes. Faut tout saisir, faut lire vite, à la fois les subtilités, parfois quand on met un peu des blagues, etc. Donc les gens nous ont dit, mettez une voix off, quoi. Pour certaines personnes, ça va être un peu plus rapide. On a décidé de pas le faire, parce qu'on a une cible qui est très précise, et qui est celle des, on va dire, des 15-35 ans, qui, eux, effectivement, sont plus habitués à ce type de format et qui soit sont encore à l'école, soit font partie de cette génération qui a eu la chance d'être scolarisée.
Donc des 15-35 ans, mais pas uniquement ivoirien.
Non, pour le moment, notre ancrage est très très ivoirien. Après, par la suite, effectivement, dans notre stratégie, on a vocation à créer des pages OJ dans d'autres pays, mais conformément à, j'allais dire, la tendance actuelle, on croit beaucoup au local. Je pense que l'air des journaux qui sont complètement panafricains et des médias qui vont être complètement panafricains qui couvrent l'actualité sur 54 pays, je trouve que c'est très difficile aujourd'hui. Et les gens, nous, on le voit à travers nos vidéos et notre audience, ce qui les intéresse, c'est des news locales, c'est des portraits, des interviews de gens qui peuvent croiser demain dans la rue. C'est le local qui marche aujourd'hui. Alors, on aura peut-être un OJ Côte d'Ivoire, un OJ Mali, un OJ Sénégal ensuite, mais pour l'instant, on est très très Côte d'Ivoire.
Retrouvez les interviews Chap Chap et toutes les vidéos d'OJ sur leur page Twitter et Facebook. OJ, ça s'écrit avec 3 I.
O-J-I-I. C'était Média francophone, fenêtre sur le monde, une émission de Léo Caravagna, réalisation Simon de Creuse. L'atelier des médias, c'est aussi Mathilde Saliou, Camille Deloche au micro, Ziad Malouf. Mathilde, Camille et Léo, vous travaillez sur le projet Mondoblog en parallèle de l'émission. Et d'ailleurs, Léo, tu as une petite annonce à nous faire sur Mondoblog.
Oui, si vous voulez suivre la Coupe du Monde de football de manière alternative, vous pouvez vous rendre sur mondial2018.mondoblog.org. Près d'une centaine de blogueurs répartis partout dans le monde et surtout en Afrique francophone vous racontent la Coupe du Monde de chez eux, de chez vous et de chez nous.
Et ces blogueurs sont donc coordonnés par toi et par Simon de Creuse qui a des centaines de talents. Salut à toutes et à tous.